Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour.
Bonjour Claude.
Une nouvelle émission ?
Comme toujours.
Nous allons parler du dollar. Et le dollar, il se trouve qu'on l'utilise dans le monde entier, dans toutes les strates de l'économie. Et pour ça, vous aviez besoin d'inviter une personne qui maîtrise ce sujet.
Exactement. Oui, on a pensé qu'après avoir évoqué le problème du dollar très souvent, parce qu'on en passe dans nos émissions, on en parle, il était peut-être important pour vous tous de bien comprendre en définitive ce qu'il y a dans le dollar, ce qui est derrière le dollar. Comprendre les mécanismes et l'évolution de la situation. Alors, pour ça, on a invité Jordi Lafond-Lacaze, bonjour.
Bonjour.
Qui est rédacteur en chef de GEAB, qui est une revue qui fait des articles, qui travaille sur la géopolitique et sur l'économie. Si sa revue a sorti un excellent article sur le dollar, qui nous a beaucoup intéressés, parce qu'on s'est dit... Ils ont vraiment travaillé les sujets, donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir approfondir pour nos auditeurs ce point qui est essentiel dans l'économie mondiale, hein, puisque aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, Claude, hein, le dollar, il est partout. Il est partout, mais il y a quand même un certain nombre de nuages qui s'accumulent et il va y avoir un certain nombre de conséquences. Maintenant, comment on en est arrivé là d'abord ? Comment le dollar a pu, et là je me retourne vers vous, parce que ça, c'est, là, je rentre dans votre domaine. Comment le dollar a pu devenir la monnaie de référence au niveau international hein, avant, on peut dire, on peut démarrer là-dessus. C'est en 2010, après la guerre, au moment où les alliés qui avaient gagné la guerre, qui dominaient le monde, ont dit bah, « maintenant, on va se répartir les dépouilles ».
Oui, hein, et plus particulièrement les Américains. Oui. En position de force après la Seconde Guerre mondiale, les Américains imposent leur monnaie, le dollar, comme la monnaie de référence sur les marchés internationaux. Donc c'est la fameuse conférence de Bretton Woods en 1944. À l'époque, l'Europe est plutôt représentée par Keynes, qui lui défend un modèle, un système monétaire avec une monnaie réellement mondiale. Fidèle à sa pensée, il imagine un système qui puisse rééquilibrer les excédents et les déficits commerciaux des différents pays, non seulement, et puis régions du monde. Et les Américains disent non, non, on va faire avec le dollar, c'est très bien. Et ils imposent un système qui met le dollar au centre, étalonné sur l'or, avec donc un équivalent entre le dollar et l'or. Le dollar est directement convertible en or, et toutes les autres monnaies du monde sont convertibles en dollars. Et les Américains, avec leur relation commerciale avec l'Europe, surtout à travers le plan Marshall, vont diffuser le dollar et imposer le dollar dans le système économique international.
Parce que vous avez, il faut bien voir, il faut vous souvenir, hein, ou si vous ne vous en souvenez pas, en tout cas il faut savoir qu'après la guerre, les pays européens, y compris l'Angleterre, étaient exsangues, hein, parce que l'économie avait été mise à mal, bon, la France n'en parlons pas, mais tous les pays étaient en grave difficulté économique. On n'avait plus d'argent. On avait subi la guerre, on avait dû financer la guerre. Et du coup, il n'y avait plus d'argent. Le seul pays qui avait traversé cette guerre en s'en sortant très bien, c'était l'Amérique, parce que l'Amérique a été le fournisseur pendant la guerre des autres pays alliés. Comme vous venez de le dire, on y en y arrive. Hein. À ce moment-là, c'est eux qui ont amené de l'argent à travers des plans. En France, c'était le plan Marshall. Hein, et ils ont amené beaucoup d'argent pour relancer l'économie des pays.
Et le dollar est une caractéristique intrinsèque de ce plan de relance. L'utilisation du dollar est obligatoire, quelque part, pour bénéficier de ce plan de relance.
Et il faut savoir, ça, c'est, les gens ne savent pas beaucoup, c'est qu'en France, au moment du débarquement, les Américains avaient prévu de faire un dollar français. Ils voulaient remplacer la monnaie française par un dollar français. On en a encore des exemplaires. Hein. Si vous veniez chez moi, je vous en montrerai un. Hein, et c'est le général de Gaulle et son équipe qui ont empêché, en allant très très vite dans cette affaire-là, ont empêché que les Américains imposent un dollar à la France comme monnaie à la place du franc. savoir. C'est-à-dire que c'était, le dollar était, ils avaient lancé après Bretton Woods, comme vous venez de le dire, les Américains ont vraiment déployé le dollar au niveau international, hein, de manière à contrôler l'économie mondiale. On peut dire ça.
Oui, hein, on comprend bien déjà qu'à ce moment-là, pour les États-Unis, il y a une volonté de puissance et d'influence, mais le dollar, à ce moment-là, est considéré comme un actif universel apolitique, si on peut dire. Il a un véritable statut international reconnu par tous les pays. Et le fait qu'on soit à ce moment-là dans un système de parité fixe et avec un étalon or rend les choses assez rationnelles et objectives, j'ai envie de dire, qui satisfait à peu près tout le monde, même si ouais, ça se fait bien entendu au bénéfice des États-Unis. Ils ne le font pas par gaieté de cœur.
Alors, le dollar démarre, bon, très bien. Et puis, comme vous le disiez, il y a un équilibre, c'est garanti sur l'or. Bon, et puis, patatrac, pas pour les Américains, il se passe quelque chose en 71, hein, c'est bien ça. Voilà.
Donc c'est le président Nixon, président des États-Unis à l'époque, qui décide de cesser cette parité avec l'or. Et à ce moment-là, on rentre dans un système où les monnaies sont fluctuantes. À cette époque-là, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a donc une parité entre le dollar et l'or. Et donc, les États-Unis, s'ils veulent créer de la dette, doivent avoir une contrepartie, un équivalent en or dans leurs réserves. Mmh. Et ils arrivent un peu au bout de ce système, parce qu'ils souhaitent créer plus de dettes. Et ils ont des capacités, des réserves d'or qui sont limitées. La solution est très simple, ben à ce moment-là, on n'a qu'à arrêter la parité avec l'or et puis on pourra créer de la dette sans avoir à se soucier de la contrepartie en or, tout simplement.
Mais peut-être que le dollar entre 1944 et 1971 avait pris suffisamment de poids à l'international, les échanges avec le pétrole et ainsi de suite, qu'il n'avait peut-être plus besoin de cette parité. Il était tellement puissant et tellement imposé qu'il n'y avait plus besoin de cette parité, peut-être.
Mais exactement, c'est le pari qu'ont fait les États-Unis, et pari réussi, puisque encore aujourd'hui, la domination du dollar est écrasante sur le système monétaire international, même s'il n'y a plus de parité, parité avec l'or.
On va avoir ces négociations entre le président Roosevelt et le roi Ibn Saoud, on en a parlé dans une émission au sujet du pétrole, où les Américains vont obtenir que toutes les transactions énergétiques dans le monde et les matières premières, hein, la vente, le commerce de matières premières dans le monde, soient faites en dollars.
Donc vous avez cité le fait qu'il est extrêmement présent sur les marchés énergétiques. Ça s'est fait donc effectivement à travers cet accord avec les Saoudiens, où les Saoudiens ont accepté faire leur commerce de pétrole exclusivement en dollars, et les Américains leur ont offert une protection militaire en échange. Mmh. Les Américains ont aussi réussi à imposer le dollar sur les marchés financiers. Donc petit à petit, le dollar s'est imposé comme indispensable, incontournable sur tous les marchés internationaux. Mmh. Et donc ça a été fait parce que toutes les monnaies étaient convertibles en dollars dans le système de Bretton Woods. Donc le fait d'être un actif universel pour une monnaie, c'est une chose essentielle qui fait que, grâce à cet argent, vous pouvez acheter ce que vous voulez, c'est reconnu par tout le monde, c'est ça le côté universel, et idem, si vous voulez vendre, quel que soit ce que vous voulez vendre, vous pouvez le vendre contre de l'argent. Et donc, en s'imposant comme ça, comme l'actif universel à l'échelle internationale, les Américains ont réussi à vendre leurs dollars, tout simplement, à tout le reste de la planète. Et c'est comme ça qu'ils financent leurs dettes. Ils peuvent émettre de la dette, il y aura toujours quelqu'un pour l'acheter en face. Normalement, quand une banque centrale émet de la dette, ça veut dire qu'elle crée de la monnaie. Oui. Et si la quantité de monnaie augmente, sa valeur est censée diminuer.
Bien sûr.
Cet actif devient de moins en moins rare, puisqu'on en crée de plus en plus, et donc sa valeur est censée baisser. Mais c'est contré par la loi de l'offre et de la demande au niveau international pour les États-Unis, puisqu'il y a toujours quelqu'un pour l'acheter, il y a toujours de la demande, et donc la valeur reste stable, et donc ça leur permet d'émettre de la monnaie sans jamais avoir quelque part à en payer les conséquences.
C'est ça, donc ils créent du déficit. Hein, ils produisent des billets, ils créent du déficit, mais alors que chez nous, par exemple, bon, il faut qu'on paye en France, on paye les intérêts de la dette, hein, vous le savez, chaque année, on a une grosse dette, énorme dette, mais on en paye au minimum les intérêts, puis un jour, il faudra la rembourser. Aux États-Unis, les États-Unis ne payent pas la dette, ils ne payent pas les intérêts de la dette, parce que c'est nous qui le payons avec les variations sur le dollar, en rachetant des bons du Trésor américain et qu'on achète à des prix qui font qu'on compense l'augmentation. C'est bien ça.
Exactement, oui.
Donc, en définitive, ils peuvent faire marcher la dette sans compter, hein, et ça ne leur coûte rien. Exactement à l'opposé de nous, pour vous donner une comparaison.
Et ça marche aussi pour le déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire que normalement, un pays qui importe beaucoup plus qu'il exporte va voir sa monnaie se dévaluer et ça va le pénaliser pour acheter des biens sur les marchés internationaux. Et toujours par cette loi de l'offre et de la demande, du fait qu'il y a toujours une demande de dollars, là, sa valeur reste stable et donc ça permet aux États-Unis de financer leur économie à moindre frais par rapport à tous les autres pays de la planète.
Et alors là, effectivement, à l'époque, il y a eu... effectivement, des gens qui ont dit « mais enfin, c'est inacceptable hein, quand même ». Il y a quand même eu des réactions au niveau international pour dire « ils sont en train de nous piéger quand même ». Et le premier, c'était le général de Gaulle, d'ailleurs, qui avait commencé à dire avant, qui avait dit surtout, avec Jacques Rueff, qui était le patron de la Banque de France, qui avait dit surtout « il ne faut pas qu'on quitte les talons or, parce que sinon, ils peuvent faire n'importe quoi
». C'était convenu dans le système de Bretton Woods, c'était… comment dire, c'était sous-entendu, admis par tout le monde. Et puis quand, en 71, les États-Unis décident de manière unilatérale de mettre fin à ce système, on comprend que ça n'a rien d'apolitique et que le système international, le système monétaire international est en réalité aux mains des Américains qui, s'ils décident de le changer, en ont le pouvoir.
– Vous venez de dire une chose très intéressante pour la suite, parce qu'il faut bien comprendre la suite de cette histoire, c'est que… derrière cet impérialisme en définitive du dollar, hein, créé de toutes pièces dans le système tel qu'on vient de le définir, en définitive, il a permis aux Américains, pour renforcer encore le pouvoir du dollar, on a vu arriver les lois extraterritoriales dont nous avons déjà parlé, et plein d'autres systèmes qui utilisent le dollar pour coincer tout le monde, y compris sur le plan pénal.
Hein ? C'est l'extraterritorialité du droit américain, avec la loi notamment FCPA, mais c'est pas la seule. Mais là, j'arrive peut-être sur un domaine que vous maîtrisez
Oui,
bien sûr, le fait pour un pays d'utiliser du dollar dans des transactions ou dans son commerce, dans son activité professionnelle, pour une entreprise, le fait tomber sous le coup de la loi américaine. Et donc, c'est utilisé. Alors ça, c'est un point de l'influence américaine qui se diffuse à travers le dollar. On peut condamner une entreprise qui n'est pas américaine pour des activités qu'elle a commises dans un pays qui n'est pas les États-Unis. Les États-Unis ont ce pouvoir-là. C'est ce qui est arrivé à BNP Paribas, par exemple, si on prend un exemple français. Mais il y a pléthore d'exemples. Et puis, il y a aussi une autre influence qui s'est diffuse à travers donc, les institutions de Bretton Woods, qu'on n'a pas cité. Mais donc, en 1944, quand il y a cette conférence, c'est à cette occasion-là aussi qu'on crée le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
Tout à fait.
Et les Américains, les États-Unis, sont centraux dans ces institutions qui vont, elles aussi, avoir recours majoritairement ou exclusivement au dollar. Et quand elles accordent des prêts à des pays en développement qui en font la demande ou qui sont secourus, entre guillemets, ils le font en dollars et ça donne une légitimité aux États-Unis ou au FMI pour imposer des réformes politiques qui vont dans le sens de la vision du monde américaine, anglo-saxonne.
En citant un peu les réactions des uns et des autres par rapport à ça, avec le FMI, la Banque mondiale. Vous savez, je crois que je l'ai donné une fois ce proverbe africain, une fois on avait parlé d'une émission dans l'Afrique, il disait « la main qui donne est toujours plus haute que la main qui reçoit ». Et c'est bien ça ce qui se passe. Les Américains, à travers le dollar, ont imposé des solutions dans les pays du tiers-monde, en particulier, mais pas seulement, souvenez-vous de ce qui s'est passé avec la Grèce en Europe et avec d'autres pays. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il y a un certain nombre de pays du tiers-monde, les BRICS, qui ont commencé à se rebeller. Alors là, c'est un peu l'évolution, parce que c'est le début d'une évolution dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Hein, on peut dire ça, en définitive. Ce que vous disiez, ils ont commencé à dire ça commence à bien faire, on est complètement étranglés, on a envie de prendre notre liberté.
Oui, et puis le monde a évolué et il était logique que le système monétaire mondial évolue avec les rapports de force géopolitiques dans le monde. Donc nous, c'est vraiment cette partie-là qu'on étudie avec le GEAB. Ce mensuel a été créé en 2006 par Frank Biancheri, et dans le premier numéro, il explique que la chute du mur de Berlin a marqué la chute de l'Empire soviétique, et donc il convient aujourd'hui, donc en 2006, quand les Américains dominent de manière unilatérale, de s'interroger sur qu'est-ce que sera le mur de Washington qui marquera la chute de l'Empire américain. Et il identifie le dollar comme l'élément central et le plus emblématique de la domination américaine sur le monde. Et donc, dès le premier numéro, il s'évertue à étudier et anticiper les évolutions du système monétaire international dominé par le dollar, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui très régulièrement. Et donc, ce système-là, il va être contesté avant tout par la montée en puissance de la Chine, qui va défendre, fin des années 2000, début des années 2010, une réforme de ce système monétaire. Et d'abord, elle propose de le faire à travers les droits de tirage spéciaux du FMI. Donc le FMI, on vient de le dire, qui est une institution issue du système de Bretton Woods, qui est dominée par le dollar. Elle a créé ces droits de tirage spéciaux qui sont en fait une unité de compte, un panier qui rassemble 5 monnaies, japonaises, britanniques, européennes, chinoises et américaines, et qui permet, à travers la valeur de ces 5 monnaies, de donner une valeur moyenne, et donc qui pourrait servir d'actif objectivement international, et qui représente un peu une partie des rapports de force dans le monde. Eux, ils vont proposer d'inclure encore plus de monnaies dans ce panier-là, pour représenter d'autant mieux le système international, et d'en faire un usage un peu plus systématique, et d'en faire une monnaie de référence à la place du dollar. Pas complètement à la place, puisque le dollar est inclus dedans. Une proposition de réforme qui inclut leur puissance à eux, qui inclut la puissance américaine, qui inclut aussi les Européens, et qui propose de faire quelque chose de multilatéral, de multipolaire, à l'image de l'évolution du monde, qui ne va pas voir la domination des États-Unis de manière éternelle, et qui prend en compte les émergents. Et ça, les Américains ont refusé. Et là, il est devenu clair pour tout le monde que tous les pays qui ne vont pas dans le sens des États-Unis, vont subir des sanctions, et que ces sanctions vont s'appliquer en grande partie à travers le dollar. Et que donc, si on veut pouvoir avoir une politique indépendante sur la scène internationale, il vaut mieux être le moins possible dépendant du dollar. Donc déjà, c'était une tendance qui était déjà lancée à ce moment-là, mais 2018 marque une rupture, et puis il y en a une deuxième suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Les avoirs de la banque centrale russe ont été gelés, et donc là, ça a été, on en remet une couche sur le fait que, même si la Russie est un pays souverain avec une banque centrale qui est censée être souveraine sur sa monnaie et sur les réserves qu'elle détient, les États-Unis ont quand même la capacité de geler ses avoirs parce qu'ils sont dénominés en dollars. Et donc ça a de nouveau accéléré cette volonté de dédollarisation, et donc de créer un système monétaire international alternatif pour réduire la domination et la dépendance de ces pays au dollar.
Comme vous venez très bien de l'expliquer, les Russes avaient parfaitement compris, avec ce qui s'était passé en Iran, ce qui s'était passé ailleurs, comment les Américains luttaient pour imposer leur dollar quoi qu'il arrive. Ils l'avaient vécu d'une certaine manière au moment de la chute du mur de Berlin et de l'explosion de l'Empire soviétique.
Et les sanctions débutent en 2014.
En 2022. Et en 2014, ils ont vu arriver les premières sanctions. Donc ils savaient très bien comment ça se passait. Ils sont des gros producteurs d'or en Russie. Mais en plus, ils se sont mis à en acheter en Afrique. C'est une des raisons pour lesquelles on en a parlé. En Centrafrique, au Mali, ailleurs, ils sont arrivés. C'est pour protéger les présidents, mais surtout pour mettre la main sur les mines d'or. Pour, à ce moment-là, avoir un stock d'or suffisant pour garantir la valeur du rouble. Et ça a marché. Parce qu'en 22, quand ils ont attaqué l'Ukraine, eh bien, tout le monde pensait, les Français en particulier, que le rouble allait s'effondrer. Ben, le rouble, il a tenu par rapport au dollar, il s'est même amélioré, parce que c'était une monnaie adossée à de l'or. Et d'un autre côté, c'est un élément sur lequel j'aimerais qu'on en parle un petit peu, c'est d'un autre côté, ils ont réussi un coup de maître, c'est casser les accords américains, Roosevelt, Arabie Saoudite sur les énergies. Et depuis, eh bien, ils se font payer, et d'autres pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats et autres, se font payer maintenant en monnaie locale ou en autre devise que le dollar pour la fourniture de gaz et de pétrole. Ce qui est, on en reparlera, parce que c'est à long terme, ça contribue à la mise en danger du dollar. Comment vous avez vu justement cette partie-là? Quand on a vu cette évolution, les gens qui se mettaient sous les initiatives russes au départ, mais comme vous l'avez rappelé, quand ils ont commencé à dire « bon, ben, on ne peut plus continuer avec le dollar », il y a eu un effet d'entraînement au niveau des BRICS, vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé, ou simplement ben, tout le monde s'y est mis parce que, en disant c'est une belle opportunité?
C'est très compliqué parce que la volonté de moins dépendre du dollar de la part des BRICS, elle est réelle, elle est affirmée, mais elle n'est pas suffisante. Il ne suffit pas d'une volonté. On l'a décrit, la manière dont le dollar s'est imposé de 44 jusqu'à aujourd'hui, elle est extrêmement importante, extrêmement habile. Elle se fait dans beaucoup de domaines. Ouais. Vous avez recité le pétrole, les marchés financiers. Il y a aussi donc toutes ces institutions, le FMI, la Banque mondiale. Il y a les systèmes de paiement dont on va reparler, je pense, le système SWIFT. Donc il y a tous ces instruments-là dont en fait le monde entier est totalement dépendant. Donc on l'a dit avec la Russie qui avait des avoirs en dollars, la Banque centrale russe, c'est le cas aussi de la Chine qui détient énormément de dettes américaines. Donc en fait c'est dans leur intérêt de beaucoup moins dépendre du dollar, mais ce n'est pas dans leur intérêt que le dollar s'effondre brutalement.
Oui, c'est ça. Donc on ne peut y aller que doucement.
Voilà, donc en théorie, la Chine aurait, si vous voulez, la capacité de faire s'effondrer le dollar si elle décidait d'un coup de vendre
toute sa dette américaine. Oui, si elle vend ses bons du trésor, ça met en l'air l'économie américaine.
Mais elle serait la première à en pâtir.
Donc elle y va doucement, parce qu'elle vend quand même. La Chine vend peu à peu.
Oui, c'est ça, peu à peu. Avec la quantité qu'elle a, à ce rythme-là, elle pourrait continuer pendant des décennies. Donc en fait, c'est ça qui est très compliqué avec la dédollarisation et la réforme de ce système monétaire. C'est que on a l'impression que c'est là, on voit les déclarations politiques, on se dit bon, mais maintenant la domination des États-Unis est clairement contestée. La Chine est aujourd'hui une puissance, elle aussi incontestable. Elle a les moyens de le faire, donc elle va le faire. Et puis on regarde et on voit que en fait c'est très lent. Il y a aussi, et c'est important de le noter, même si ce n'est pas directement lié à la monnaie, des accords militaires et des accords de défense entre l'Arabie saoudite et la Chine d'un côté ou la Russie. Mmh. Puisqu'on l'a dit, le pacte avec les Américains, c'était pétrole contre protection militaire. Donc les Saoudiens, eux, s'ils n'ont plus besoin uniquement des Américains pour se protéger, en plus, depuis, le pays s'est largement développé, a des capacités bien plus importantes pour se défendre par ses propres moyens. Donc, il en est moins dépendant. Maintenant, l'Arabie saoudite, elle aussi, ça n'est pas son intérêt de tourner définitivement le dos aux États-Unis. Son intérêt, c'est de jouer sur le maximum de tableaux, donc avec les Russes, avec les Chinois, avec les Indiens, avec les Américains. Une rupture, une accélération qui est importante à noter, c'est le fait qu'elle ait rejoint, que l'Arabie saoudite ait également rejoint les BRICS, donc c'est effectif depuis le 1er janvier 2024. Ça a été évoqué au mois d'août de l'année dernière. Donc ça, c'est un point important à noter. Au niveau des BRICS, ce qui est important à noter aussi et qui est une réalité, c'est d'avoir recours de plus en plus aux monnaies nationales pour commercer entre eux. Ça, c'est quelque chose qui a été affirmé.
Or, ils représentent, il ne faut pas l'oublier, 32% du PIB mondial, pratiquement le tiers du PIB mondial.
Et ils représentent l'essentiel de la croissance mondiale.
Exactement. Quand ils se mettent à travailler et à commercer entre eux avec leurs devises, ça veut dire que ça pose un problème.
Ça, c'est un point important. L'autre point important à noter, c'est qu'il y a des discussions depuis très longtemps sur le fait de créer un instrument monétaire à l'échelle des BRICS, qui serait en quelque sorte l'équivalent du DTS, du FMI que j'ai cité. Donc un panier des différentes monnaies. Donc on parle du 5R parce que les monnaies des BRICS commandent tous en R, renminbi, rouble, rice.
Et les 5R.
Et roupie. Et donc.
Roupie indienne.
Roupie indienne. Exactement. Donc ça c'est un dossier qui est discuté depuis longtemps, qui n'est pas pour l'instant effectif, mais qui le sera très probablement un jour. Et il y a là aussi des discussions sur le fait d'intégrer des actifs tangibles comme l'or, mais comme aussi certaines matières premières, pour fixer la valeur de cet instrument monétaire. Donc a priori, ça ne serait pas une monnaie à proprement parler avec une banque centrale, avec des billets, des pièces, mais donc l'équivalent de ce qui s'est fait au FMI, un instrument à la fois pour stocker de la valeur, mais aussi pour échanger des biens, et qui serait donc du côté de ce monde-là, donc des BRICS. Donc on voit qu'il s'évertue à créer un système alternatif en fait à celui de Bretton Woods qui s'est imposé, qui a dominé, qui domine encore, et que les Occidentaux en fait refusent de remettre en question et d'adapter à l'image du monde tel qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas s'attendre à ce que le renminbi, que le yuan chinois prennent la place du dollar. Pour ça, il y a une raison qui est essentielle, c'est que le renminbi n'est pas aussi accessible que le dollar américain. L'une des caractéristiques du dollar qui a fait qu'il s'est imposé de manière aussi flagrante, c'est sa liquidité. C'est la capacité pour tout le monde, n'importe qui, État, entreprise ou particulier, d'acquérir du dollar, où qu'il soit dans le monde. Il peut le faire depuis une place financière qui n'est pas une place américaine. Et c'est ce qui facilite les échanges internationaux avec le dollar. Les Chinois, eux, n'ont pas du tout le même système. Ils ont une économie et un marché financier qui est beaucoup plus régulé, beaucoup plus contrôlé, et qui fait que des non-résidents en Chine ne peuvent pas acquérir des renminbi de la manière, enfin, librement. Et donc, tant que cet état de fait est en place, on ne peut pas, enfin, le renminbi ne pourra pas avoir le fonctionnement du dollar au niveau international. Et a priori, ce système, enfin ce contrôle sur leur économie et sur les marchés financiers de la part de la Chine leur a réussi. C'est ce qui leur a permis de développer leur économie aussi jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a fort à parier qu'ils ne vont pas avoir envie de s'en séparer de sitôt. Et donc, ça n'est pas une volonté pour eux d'imposer le yuan comme les Américains ont imposé le dollar. Donc c'est ça qui rend la situation aussi complexe, c'est de voir à quoi va ressembler le prochain système monétaire, et il va être complexe et multipolaire à l'image du monde tel qu'il est complexe et multipolaire aujourd'hui.
Et dans ce monde multipolaire, bien, il y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que la monnaie américaine, il y a effectivement les fameux BRICS qui émergent avec prochaine puissance économique, enfin en 2050, d'après le FMI, hein, première puissance économique du monde, c'est la Chine, la deuxième, États-Unis, troisième, c'est l'Inde. Donc la monnaie indienne, la roupie indienne, le renminbi chinois, bah, il va aussi falloir qu'il rentre en piste, et ça va être possible, comme vous venez de l'expliquer. Un autre point aussi, je crois que c'est qui montre bien qu'il y a quand même, ça bouge. On dit toujours le centre de la finance, ça c'est chez nous, hein, les alliés, on dit le centre de la finance mondiale, c'est Wall Street aux États-Unis. Il ne faut quand même pas oublier que dans les 5 plus grandes banques du monde, il y a 4 banques chinoises. Et que la cinquième, c'est JP Morgan, l'américaine JP Morgan. Mais 4 des 5 premières banques mondiales sont chinoises. Et vous aviez évoqué tout à l'heure SWIFT. Vous savez, ce système bancaire qui permet d'échanger d'une banque à l'autre sans qu'il y ait des mouvements financiers, ce qui est évidemment extrêmement pratique. SWIFT est basé à Bruxelles. Hein, et aujourd'hui, les Chinois ont installé un système qui fonctionne de plus en plus suite à l'affaire de l'Ukraine. Parce que comme nous, on a coupé tous les ponts avec la Russie et toutes les transactions énergétiques russes et autres, tout passe maintenant par le système chinois. Ce qui fait que le SWIFT est en train d'être contrebalancé par un système qui, puisqu'il est utilisé par les Russes et par les BRICS en général, va devenir de plus en plus important. Donc tout ça, c'est tout, comme vous dites, c'est très complexe parce que c'est tout un ensemble.
Cette création d'un système monétaire alternatif de la part des BRICS, elle est très concrète et elle se fait, j'ai envie de dire, presque institution par institution. Ouais. Donc, il y a le CIPS qui est donc l'équivalent chinois de SWIFT. Il y a aussi la Nouvelle Banque de Développement qui est l'équivalent BRICS de la Banque mondiale. Ouais. Il y a la Shanghai Coopération Organisation qui est plutôt là sur un point stratégique. Ouais. Il y a un certain nombre d'institutions créées par les BRICS pour contrebalancer l'influence des institutions que l'on connaît, donc FMI, Banque mondiale, OMC, qui sont plutôt sous influence occidentale. Et donc, vous l'avez rappelé, au centre, on retrouve avant tout la Chine, mais aussi l'Inde, qui est la puissance émergente également. Oui. Et maintenant qu'on y compte également Émirats arabes unis et Arabie saoudite, on a une puissance, enfin une capacité de financement qui est d'autant d'autant plus importante, d'autant plus significative. Et tous ces financements-là ne se font plus à travers du dollar, mais plutôt à travers des renminbi ou de la roupie indienne. Là, il y a eu un exemple récent avec les Maharaja Bonds, donc qui sont émis par la nouvelle banque de développement pour faire des projets de développement en Inde et qui ont été émis en roupie indienne. Et donc, je le disais tout à l'heure, ce type de prêts et de financements de développement ne sont jamais neutres. Il peut toujours y avoir derrière la volonté d'imposer une vision du monde, une vision politique. Et le fait qu'il ne se fasse plus en dollars fait que c'est une nette perte d'influence sur le plan international pour les États-Unis. Et que c'est au contraire la Chine, c'est ce qu'elle fait avec les routes de la soie aussi, ou l'Inde, qui peuvent apporter, exercer leur influence et développer... propager leur vision du monde à travers donc les pays BRICS, mais aussi en Amérique latine où ils sont très présents, ou en Afrique où ils sont très présents également. Donc c'est en fait dans cette dédollarisation, dans cette perte de puissance des États-Unis et dans la perte d'influence du dollar sur le système économique et financier international, même si c'est lent et très progressif et que ça ne se fait pas d'un coup et que personne n'a intérêt à ce que ça se fasse d'un coup, on peut voir... très régulièrement, ces institutions se mettent en place. Ça fait des années qu'ils y travaillent. Maintenant, ces institutions, elles fonctionnent. Et c'est aussi ce qui permet à la Chine de tenir tête aux États-Unis sur Taïwan. C'est ce qui a probablement motivé les Russes à envahir l'Ukraine. C'est qu'ils savent qu'ils ont maintenant la capacité de moins dépendre du système occidental. Vous l'avez dit tout à l'heure avec le rouble et les contreparties en or, les Russes savaient qu'ils auraient la capacité de tenir une dévaluation de leur monnaie. Ils ont réussi. Ils savaient qu'ils auraient des débouchés pour leur pétrole et leur gaz si on leur imposait des sanctions. Aussi. Ils ont réussi également. Et ça, c'est des choses auxquelles ils travaillent en fait depuis au moins 10 ans, voire plus,
absolument.
Et qu'ils ont mis en place petit à petit. Et on arrive maintenant à un stade où il y a une forme de mise en pratique, si je peux dire, de ce système alternatif qu'ils s'imposent à eux-mêmes, qu'ils mettent en pratique et qu'ils mettent en exercice pour eux-mêmes d'abord, et qui vont essayer ensuite de présenter au reste du monde et de rendre effectif pour le reste du monde.
– Dans notre discussion, il y a un grand absent, et c'est malheureux, c'est l'euro. L'euro, on parle plutôt de dissolution de l'euro, plutôt que l'euro puisse trouver une place dans cette évolution, c'est quand même aberrant.
– Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué jusque-là, mais l'euro a déjà une place dans le système monétaire international. En termes de réserve de change, il représente assez peu, surtout en comparaison du dollar. En revanche, en termes de monnaie utilisée dans le commerce international, il est déjà un peu plus important, beaucoup moins que le dollar toujours, mais il joue un rôle un peu plus important. Il y a une raison pour laquelle il ne s'est pas imposé comme monnaie internationale au point de faire concurrence au dollar, c'est la liquidité qu'on a citée tout à l'heure, qui est parfaite, si je puis dire, pour le dollar et les États-Unis, qui est beaucoup moins réelle pour la Chine du fait de son contrôle. En Europe, c'est une autre raison qui rend que la liquidité est moindre, c'est que c'est une monnaie unique pour un marché qui est fragmenté, pour des économies qui ne sont pas uniques, qui sont différentes. Ce qui fait que quand on achète de l'euro, quand on achète des bons du trésor, on achète... Alors, il y a eu une nouveauté suite à l'invasion russe, mais jusque-là, c'était exclusivement des bons du trésor nationaux, libellés en euros, mais on achetait de la dette italienne ou de la dette allemande ou de la dette française. Elle ne se fait pas au même prix, au même taux d'intérêt, et c'est ce qu'on appelle donc le spread, c'est les écarts dans les taux d'intérêt dont bénéficient les pays membres de la zone euro sur les marchés financiers. Il y a eu pour la première fois une émission de dette au niveau des institutions de l'Union européenne, donc c'était en 2022.
Oui.
Il y en aura peut-être d'autres, c'est difficile à dire. Ça révèle toujours les divisions au sein de l'Union européenne. Les Allemands sont quand même assez farouchement opposés. En France et dans d'autres pays, on y est beaucoup plus favorable. Ces divisions font que ça ne va pas devenir une généralité de sitôt et que donc l'euro n'a pas la capacité de s'imposer au même titre que le dollar, tout simplement.
Donc encore un sujet à venir.
Oui, c'est un bon sujet.
Prochaines élections.
Ben, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous aurez tous, à travers toutes les explications, dont je vous remercie vraiment, M. Lafond-Lacasse, parce que c'est très utile, en définitive, d'éclairer un peu l'histoire et puis ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quand même, je pense que pour chacun, il y a plusieurs leçons à retenir. La première d'abord, c'est que le dollar ne va pas disparaître demain matin. Il faut arrêter, parce que j'entends maintenant tout le monde, il y a 10 ans, personne ne parlait de dédollarisation, alors qu'il y avait les premiers signaux. Maintenant, tout le monde en parle. On a l'impression que demain, il n'y aura plus de dollar. Non, le dollar va continuer à être une monnaie mondiale, d'autant plus, je le citais tout à l'heure, que les États-Unis seront toujours la deuxième puissance économique mondiale en 2050, hein, et la troisième en 2075, d'après les prévisions du FMI et de la Banque mondiale. Donc, ça continuera, mais pas du tout au même niveau. Et là, la contrepartie sera que les Américains vont se faire rattraper par une partie de leur dette. Pas tout, bien sûr, ils ne vont pas s'absorber 30 000 milliards de dettes, hein, parce que c'est ça le niveau, on est proche des 30 000 milliards de dettes. Nous, vous voyez, avec les nôtres, on dit que c'est dramatique. Alors, si on avait ce niveau-là, qu'est-ce qu'on devrait dire? Mais nous, on paye, eux, ils ne payent pas. Mais on n'ira pas à rembourser cette dette-là parce que, dans le temps, tout va continuer, ça va diminuer peu à peu. Et bon, mais ils vont avoir à gérer quand même beaucoup plus attentivement leur propre émission de monnaie dans le futur parce qu'ils ne pourront pas éternellement se faire payer par les autres. À un moment, il va falloir que l'Amérique paye. Et j'ajouterai une chose, c'est que si vous suivez, alors là, c'est de la politique géopolitique américaine, mais si vous suivez la politique du président Biden et celle de celui qui semble être le prochain président, c'est-à-dire le président Trump, Donald Trump, quand il a commencé déjà avant, quand il était président, mais il continue, quand il dit on va revenir vers la politique de Monroe, c'est-à-dire on va revenir sur le développement interne du marché américain pour vivre pratiquement en autarcie entre nous, mine de rien, c'est qu'il prend en compte la diminution de l'importance du dollar au niveau mondial. Parce que pour tenir dans les conditions qu'on a expliquées, il faut qu'il se recentre sur lui-même et qu'il cesse d'être la monnaie mondiale. Donc Trump, dans sa politique, là les gens ne le voient pas parce qu'ils ne connaissent pas tout ça, dans sa politique est en train de préparer l'évolution de l'Amérique au niveau du dollar, alors que les démocrates avec Biden ne veulent absolument pas admettre simplement cette réalité qui est en train de se mettre en place. Donc c'est très intéressant, vous voyez que derrière tout ce qu'on vient de dire, il y a les conséquences pour nous, mais il y a des conséquences internationales et des conséquences même pour des élections prochaines, comme les élections américaines.
– Effectivement, là, j'ai déjà un peu mieux compris effectivement toute cette complexité du monde financier international et ces attaques entre le dollar et la monnaie des BRICS ou les monnaies chinoises. Et je rappelle aussi, on en a parlé au tout début, de ce franc qui voulait être imposé par les Américains à la Libération. Nous en avons parlé avec Éric Branca lors d'une
absolument,
dernière émission.
– Oui, absolument, c'est vrai. Vous avez raison avec Éric Branca.
– Son livre « L'ami américain ».–
Qui était une excellente émission et qui a eu beaucoup de succès aussi.
– Donc tous ces problèmes-là ne datent pas d'aujourd'hui et ça remonte effectivement à Bretton Woods.
– On va continuer à anticiper toute cette réforme du système monétaire international.
– Exactement.
– En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclairages.
– Merci à vous de m'avoir reçu. –
Et je pense que vous avez pu avoir une vue complète de toutes ces problématiques et nous, effectivement, ça rentre aussi dans notre démarche de réflexion pour les élections européennes parce que tout est intégré et incorporé. Merci et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.